Bonjour, je suis Daniel Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le rendez-vous marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo, afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast avec Paul-Louis Bénard qui gère toute la partie partenariat pour la BU Retail de la société Payplug. Alors Payplug, si vous ne les connaissez pas encore, c'est une solution de paiement omnicanal française. Ils sont notamment connus pour leur page de paiement qui s'intègre sur de nombreux CMS e-commerce comme Shopify ou PrestaShop. Et ce que j'aime beaucoup chez Payplug, c'est qu'ils font un focus sur la performance et la maximisation de votre taux d'acceptation. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir une belle page de checkout, encore faut-il qu'elle convertisse. Et comme toutes les pages de votre site e-commerce, vous devez l'optimiser et la penser pour la conversion. Mais les bonnes pratiques d'optimisation de la conversion diffèrent d'une page à une autre. J'ai déjà beaucoup abordé les pages produits et les pages catégories avec Sébastien Tortu ou encore mes amis de chez Uxia, Pablo et Laurent, dans d'autres podcasts. Et donc aujourd'hui, c'est au tour de Paul-Louis Bénard de nous révéler ses secrets et ceux de Payplug pour optimiser votre page de paiement. Donc, comme d'habitude, je vais poser toute une série de questions sur cette page. Donc quels sont les éléments essentiels qui constituent la page de checkout? Quels sont les modes de paiement pour faciliter le paiement? Quel est l'impact du paiement en plusieurs fois sur le taux de transformation e-commerce? Est-ce qu'il y a des différences en termes de conversion entre la page de paiement de type pop-up ou redirigé? Quels sont les éléments que l'on peut A/B tester sur sa page checkout? Et surtout, quels sont les indicateurs qu'il est nécessaire d'analyser pour comprendre la performance de son checkout? Donc voilà pour le programme de cet épisode. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Paul-Louis Bénard. Salut Paul-Louis, bienvenue sur le rendez-vous marketing. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté si vite de venir présenter et de parler un peu de checkout et de Payplug.
Alors Payplug, c'est un prestataire de paiement. On se définit vraiment comme une solution de paiement omnicanal et on se définit également comme un prestataire de paiement qui va mettre beaucoup l'accent sur la partie performance. Quand je dis performance, c'est faire en sorte que la conversion soit la meilleure, en fait que l'acceptation et que la conversion soient les meilleures avec Payplug.
Ouais, c'est un truc que vous expliquez beaucoup quand vous présentez la solution, c'est qu'en gros, vous permettez d'optimiser le taux d'acceptation d'un paiement. Je pense que c'est peut-être une question que je peux déjà poser maintenant. C'est un enjeu important aujourd'hui pour les e-commerçants d'optimiser ce taux d'acceptation. Parce que plus il est élevé, bah plus les paiements y passent et plus les checkouts sont effectifs.
C'est ça. On peut donner la définition, si tu veux, du taux d'acceptation et puis donner un petit historique un petit peu après sur cette partie-là. Ouais. Le taux d'acceptation, c'est vulgairement, le plus simplement possible, le nombre de consumers qui ont réussi à payer sur le nombre de consumers qui ont tenté un paiement. Et ça, ça te donne le taux d'acceptation. Alors le taux d'acceptation, il est évidemment, l'objectif, c'est qu'il soit toujours le plus haut possible. Et il est étroitement lié au taux de conversion, qui est en gros le nombre de paiements réussis sur le nombre de paiements tentés. Donc ça, ce sont les deux grandes métriques que nous, on regarde aujourd'hui. Alors évidemment, le taux de conversion, c'est un terme qui est aussi utilisé sur d'autres aspects du e-commerce, qui est un peu la North Star aujourd'hui. Le taux de conversion, c'est vraiment le nombre d'acheteurs sur le nombre de visiteurs sur ton site. Ouais. Et nous, sur la partie paiement, on parle également de taux de conversion, mais dans une autre mesure, comme celle que je viens de t'expliquer. Et c'est pour ça qu'on met aussi l'accent énormément sur cette autre North Star, qui est pour nous la North Star aujourd'hui sur la partie paiement, comme l'est le taux de conversion sur site. C'est vraiment le taux d'acceptation. Et c'est ce qui, aujourd'hui, permet de mesurer la performance. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la performance de tes paiements. C'est ce qui permet de mesurer aussi la performance de ton prestataire de paiement.
Ok, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais une petite augmentation du taux d'acceptation ou du taux de conversion sur le checkout, ça peut te faire gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en fonction de
ton chiffre d'affaires ou du volume de chiffre d'affaires que tu fais par an.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est acté aujourd'hui. On a fait des calculs. On sait que une augmentation de ton taux d'acceptation derrière, ça engendre nécessairement une augmentation de ton chiffre d'affaires. Mais il faut pas être trop naïf non plus. C'est-à-dire que quand tu as 5% de taux d'acceptation en plus par rapport à l'année précédente, ça veut pas dire que tu vas avoir 5% de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'année précédente. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le taux d'acceptation, plus il est haut, plus il va favoriser effectivement une augmentation de ce chiffre d'affaires, mais également c'est une question de friction en moins sur le parcours d'achat. Si j'ai moins de friction sur mon parcours d'achat, dans le sens où je vais avoir par exemple avec Payplug la possibilité de pouvoir gérer davantage tout ce qui va être acceptation des paiements et donc de pouvoir contrer notamment la friction à l'achat, c'est-à-dire du 3D Secure, des choses comme ça, on va nécessairement avoir en gérant davantage cette partie-là, en permettant aux e-commerçants de ne pas déclencher de 3D Secure sur des transactions, en tout cas en travaillant avec les banques pour ne pas déclencher de 3D Secure lorsque la transaction en question nous semble suffisamment sécurisée, c'est ce qui va enlever de la friction aussi. Donc on va effectivement avoir une augmentation du chiffre d'affaires, mais ça ne veut pas dire que c'est ISO 5% d'augmentation de taux d'acceptation égale 5% d'augmentation du chiffre d'affaires, parce qu'on a des personnes qui vont nécessairement, si la première transaction a échoué, réessayer. Par contre, on a aussi des personnes qui, en essayant une première fois de payer et si la transaction n'a pas abouti, vont abandonner le paiement. Alors que nous, justement, on va travailler là-dessus. Mais nécessairement, effectivement, pour répondre à ta question, oui, une augmentation du taux d'acceptation sur l'ensemble des paiements engendre nécessairement une augmentation du chiffre d'affaires.
Ok, c'est super clair. En fait, je voulais mettre ce point en premier lieu dans le podcast pour commencer, pour faire comprendre à l'audience en fait l'importance d'optimiser son checkout et d'avoir les bonnes solutions de paiement. Donc là, tu parles de Payplug, après il y en a d'autres, tu parles d'un concurrent de Payplug, Le but, c'est pas de les citer. Mais c'est ça, je pense que l'intérêt d'une solution comme Payplug, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que vous aidez en fait à optimiser la page de checkout, on va y revenir, mais également ce fameux taux d'acceptation qui n'est pas toujours très élevé en fonction de la solution qu'on a ou si on passe directement par sa banque en ligne. En tout cas, moi, c'est comme ça.
Complètement. Après, encore une fois, quand on dit pas très élevé, oui. Ça dépend. On peut avoir, on en discutait la semaine dernière avec un partenaire, tu peux avoir aujourd'hui un taux d'acceptation à 95% pour un marchand qui va avoir, par exemple, un panier moyen à 300 euros, et c'est un excellent taux d'acceptation. En revanche, on peut avoir un taux d'acceptation à 96%, donc supérieur à celui que je viens de t'annoncer, pour un marchand, par exemple, qui va avoir un panier moyen aux alentours de 40 euros. Ouais. Et bien, si tu compares le taux d'acceptation par rapport à la verticale, mais plus particulièrement au panier moyen, et bien, véritablement, si on veut être le plus clair possible, le taux d'acceptation à 95%, en réalité, il est meilleur que le taux d'acceptation à 96% pour ce marchand-là. Okay. Et c'est là, en fait, que ça définit vraiment la notion de performance. Parce que nécessairement, sur les transactions, pour les marchands qui vont avoir un panier moyen plus élevé, on va être plus facilement confronté à des échecs de paiement liés notamment à un 3D Secure qui est mal passé. On va être aussi plus facilement confronté à des plafonds de carte atteints, à des fonds insuffisants, des soldes insuffisants sur le compte, etc. Donc, le chiffre, si tu veux, le taux d'acceptation à la fin, c'est effectivement une métrique à prendre en compte, et c'est ça qui donne en fait la performance ou non de ton prestataire de paiement. Mais c'est aussi comment est-ce que nous, chez Payplug, on aide nos clients, nos e-commerçants, à comprendre ce taux.
Ok.
Et c'est ça, là, véritablement, qui est important. C'est comment est-ce que tu interprètes le taux d'acceptation que tu as aujourd'hui et de quelle manière tu es capable de l'optimiser et à quel moment tu peux te dire « Ok, là, j'ai un bon taux d'acceptation. » Même s'il est moindre par rapport à une moyenne, je me rends compte que moi, j'ai un panier moyen qui est supérieur à la moyenne aujourd'hui. Nécessairement, j'ai un bon taux d'acceptation.
Ouais, j'ai compris. Mais après, voilà, le but d'une solution comme Payplug, c'est pas uniquement d'optimiser le taux d'acceptation, c'est aussi que quand quelqu'un arrive sur la page de checkout, qu'il termine le checkout, parce qu'on sait très bien qu'il y a des pages de checkout qui sont très mal faites. Donc du coup, t'es déjà découragé quand t'arrives sur la page de checkout de faire le paiement parce que c'est soit pas très bien expliqué, c'est pas très rassurant, soit il y a trop de champs de formulaire, soit il y a plusieurs pages qui vont se rafraîchir en fonction des champs que tu vas remplir. Donc tu vois, c'est ce point-là, et c'est ça que je voulais te parler aussi, c'est quels sont pour toi les éléments qui constituent une bonne page de checkout, les éléments essentiels.
Alors, Il faut, je pense aussi, redéfinir un petit peu ce qu'est une page de checkout. Nous, chez Payplug, on n'a pas vocation à optimiser une page de checkout dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire je commence à rentrer mes informations, j'ai validé mon panier, j'arrive sur le checkout comme je peux avoir, par exemple, je pense que un display Shopify est un très bon exemple. Le display Shopify, c'est je vais valider mon panier, j'entre à ce moment-là sur le checkout, et une fois que je suis entré sur le checkout, j'ai plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Nous, chez Payplug, on n'a pas vocation à bouger l'ensemble du checkout. En revanche, on a vocation à faire en sorte que lorsque la personne arrive sur la page de paiement, elle se sente suffisamment rassurée, en confiance, pour pouvoir procéder à son paiement et tenter un paiement. Et ensuite, nous, notre stack technique fait en sorte que on travaille en une fraction de seconde à faire en sorte que ce paiement soit accepté dans le plus grand nombre de cas possible. Mais si tu prends véritablement la partie page de paiement, ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est à la fois le fait que ce soit d'une part rempli d'éléments de réassurance, c'est-à-dire montrer que la page de paiement est une page de paiement sécurisée. On a aujourd'hui la possibilité de pouvoir intégrer notamment ce qu'on appelle les logos de scheme. Donc les schemes, c'est tout ce qui va être Visa, Mastercard et autres. Donc intégrer ces logos-là pour montrer qu'effectivement on est sur une page de paiement sécurisée. Montrer également les différentes certifications que Payplug peut avoir aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces certifications parce que ce n'est pas le but et on va perdre un grand nombre d'auditeurs et d'auditrices à ce moment-là. Mais typiquement, une certification comme la certification PCI-DSS, c'est une certification qu'on met en avant aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a un haut niveau de sécurité, le plus haut niveau de sécurité qui nous a été délivré. Et donc qui fait qu'aujourd'hui on est capable de pouvoir accepter les paiements permettre à des marchands en tout cas d'accepter des paiements. Le deuxième segment sur lequel on travaille beaucoup chez Payplug, et c'est plutôt un segment cette fois-ci de consulting, c'est comment est-ce qu'on aide les marchands à optimiser ce checkout. Et ça se fait de plein de manières différentes. Déjà comprendre à qui s'adresse le e-commerçant. Tu vois, aujourd'hui, on a de plus en plus, je pense, l'idée que l'internationalisation comme l'omnicanalité est un besoin ou en tout cas une étape nécessaire pour un grand nombre de e-commerçants, de retailers d'une manière générale, pour aller chercher de la croissance, pour passer ce plafond de verre que certains vont délimiter à 3 millions, 5 millions ou 10 millions. Mais aller faire de l'international, c'est pas si simple que ça. Et surtout, ça doit être optimisé et ça doit être fait en toute compréhension de l'audience que l'on a en face de soi. On a beaucoup de e-commerçants qui pensent, et à raison, je suis aligné avec celles et ceux qui pensent cela, que la Belgique, c'est le marché, à partir du moment où on passe la frontière française, que c'est le marché le plus simple à aller adresser. Et c'est la vérité, c'est le marché aujourd'hui, enfin, c'est ma vérité en tout cas, je pense effectivement que la Belgique est un marché extrêmement simple à aller adresser. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie parle français. On a un pouvoir d'achat qui est relativement similaire à celui qu'il y a aujourd'hui sur le marché français. Et on a des habitudes de consommation qui sont relativement similaires. En revanche, j'ai vu beaucoup d'e-commerçants me dire « je comprends pas, je fais pas d'ads sur la Belgique, mais quand même, je vois que j'ai des visites, mais par contre, j'ai un taux de conversion absolument horrible sur mes visiteurs qui viennent de Belgique. » Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le paiement n'est pas seulement, à ce moment-là, un outil d'acceptation, mais c'est aussi un levier de croissance. Pourquoi ? Parce que tu vas en Belgique, qui est, comme je le disais, un marché extrêmement similaire, drôlement similaire même au marché français, mais en fait, là-bas, ils n'ont pas du tout les habitudes de payer de la même manière que nous. C'est ce qu'on appelle des solutions de paiement locales, ce qu'on appelle également dans le milieu du paiement les APM, les Alternative Payment Methods. Et quand tu vas en Belgique, par exemple, si tu ne proposes que de la carte, comme nous, on le fait pour une grande partie des e-commerçants en France, tu ne vendras pas. Parce qu'en Belgique, ils ne sont pas habitués à utiliser la carte, une carte de crédit, débit, CB, Visa, Mastercard, comme nous, c'est le cas pour une immense majorité des paiements. Et eux, ils passent par une solution locale qui s'appelle Bancontact, qui est une solution qui est utilisée par 15 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices en Belgique, et qui est la solution la plus utilisée là-bas. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que hors PayPal, Bancontact, ça doit représenter 80 à 90% des paiements sur le marché belge. Okay. Donc, se questionner sur « je ne comprends pas Voilà, se questionner sur je ne comprends pas, j'ai des clients en Belgique, mais ils ne payent pas. Nous, on a aussi ce rôle de un peu consulting au final chez Peplug, de dire ok, on peut vous accompagner sur certains pays, par contre, il va falloir que vous mettiez ça, ça, ça en place. Et de la même manière, optimiser le checkout, c'est aussi trouver l'ordre de préférence le plus adéquat en fonction du pays dans lequel se trouve le consommateur ou la consommatrice. Si on va sur un pays comme la Belgique, Bancontact, c'est une chose de le proposer, mais c'est aussi de le proposer, si c'est la solution la plus utilisée, en première solution.
C'est ça, oui.
Que ça s'affiche en premier, que ce soit la solution de paiement qui soit sélectionnée presque par défaut, tu vois. De la même manière que si tu vas en Allemagne, aller en Allemagne et ne pas proposer de pay later, par exemple, donc du paiement à 30 jours, paiement à 15 jours ou à 30 jours, c'est une hérésie. C'est quelque chose qui doit absolument être mis en place. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être intégré lorsqu'on a réellement l'intention de pouvoir aller s'adresser à une population étrangère, à un marché, en tout cas, extérieur à celui sur lequel on est aujourd'hui, qui est la France. Donc, c'est aussi un petit peu ça, si tu veux, la manière dont on peut optimiser le checkout chez Peplug. C'est à la fois, évidemment, par notre solution, comment est-ce que le marchand se l'approprie, comment est-ce qu'il arrive à personnaliser sa page de paiement, comment est-ce qu'il arrive sur d'autres CMS, puisqu'il n'y a pas évidemment que Shopify, mais comment sur d'autres CMS, on peut également avoir proposer des solutions de paiement, enfin des encarts de paiement directement intégrés à la partie de checkout. Mais ça, c'est vraiment comment le e-commerçant s'approprie l'outil. Et effectivement, le deuxième axe, comme je le disais, c'est vraiment comment est-ce que nous, on peut les conseiller pour faire en sorte que le checkout soit optimisé. On n'a pas vocation à devenir, à remplacer l'agence, les agences digitales, les free, les devs qui font un excellent travail sur ce domaine-là. Mais en tout cas, on a aussi au niveau notamment de nos équipes AM, on a une très bonne connaissance de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. On a une très bonne connaissance de par le nombre de e-commerçants qu'on accompagne, qui est aujourd'hui un peu plus de 17 000 e-commerçants qui utilisent la solution Payplug. Donc on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui peut être optimisé et on voit ce qui ne fonctionne pas.
Ok, merci, c'était très clair. Est-ce que ta page de checkout, tu peux l'optimiser en fonction des moments forts de l'année comme le Black Friday ou la fête de fin d'année? Et si oui, qu'est-ce que tu changes à ces pages-là?
Alors, quand tu dis page de checkout, est-ce que c'est uniquement la page Payplug ou est-ce que c'est d'autres pages? Non, ou est-ce que c'est le checkout dans son ensemble?
Qu'il soit sur Payplug ou qu'il soit pas sur Payplug.
Alors oui, évidemment, tu peux l'optimiser, tu peux mettre en place plein de choses. La page de Payplug, je sais pas trop. Moi, j'encourage parfois aussi à mettre un peu de dynamisme dans les pages de paiement Payplug. Si en tout cas le choix du e-commerçant c'est de la personnaliser cette page-là, de pouvoir changer aussi les visuels qui sont dessus. Typiquement, une marque de fashion qui va avoir des collections qui vont se renouveler tous les 3 mois, ça peut être intéressant aussi à ce moment-là de pouvoir mettre en avant des produits qui viennent de sortir ou mettre en avant des produits qui vont sortir. C'est aussi une manière de pouvoir apporter un peu de vie en fait à ce checkout. Et puis après, sur en tout cas cette page de paiement Payplug, et après sur le checkout de manière générale, il y a plein de choses qui sont faisables. Je sais que la partie bundle par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Je sais que quand tu regardes énormément d'études qui ont été faites, il y en avait une excellente. On peut citer des solutions, des marques.
Oui, bien sûr.
Ouais. Il y avait une excellente étude qui avait été menée par Tapcart. Donc Tapcart qui est une solution californienne qui propose de l'app no code Shopify, donc qui vient en fait se puiser toutes les infos du BO Shopify pour pouvoir en sortir une app no code qui est téléchargeable sur l'Apple Store et le Google Store. Et Tapcart avait réalisé effectivement une étude assez poussée sur le BFCM, donc Black Friday, Cyber Monday, où ils expliquaient qu'effectivement la plupart d'études vont te sortir à peu près les mêmes chiffres, c'est que pendant les périodes de forte affluence, typiquement le BFCM ou les fêtes de fin d'année, on est amené à consommer, à avoir un panier moyen, par exemple, de 20 à 30% supérieur par rapport à la normale, qu'on est amené à dépenser de plus en plus tôt. Tu vois, typiquement, Tapcart sortait une info très intéressante, c'est notamment sur les cadeaux de Noël. Donc, la forte période pour nous, particulièrement en France, ils expliquaient que tu avais plus de un consommateur sur deux qui déclarait qu'il allait commencer à effectuer ses achats de Noël à partir du début octobre. Donc c'est aussi toutes ces choses-là à prendre en compte. C'est comment est-ce que je l'optimise et quand est-ce que je l'optimise. Comment je l'optimise, on l'a dit, il y a des solutions qui sont assez facilement pluggables. Travailler avec du bundle, travailler également, retravailler aussi sa phase de pop-up, de notification push sur son site ou sur son app également si on a une app. Ça, c'est des choses qui sont assez facilement faisables. Et puis après, c'est dans un souci aussi de dynamisme, j'ai envie de dire toujours remettre en question la manière dont on travaille. C'est-à-dire que même si tu es en période, hors période de forte affluence, l'avantage de pouvoir travailler sur l'e-commerce, c'est aussi l'avantage de pouvoir tester énormément de choses. On sait qu'il y a une friction aujourd'hui, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est sur vraiment une part significative du nombre d'internautes, de consumers, de visiteurs sites qui vont abandonner une transaction, qui vont abandonner un panier en cours, et ça, il n'y a rien de pire pour un marchand, lorsque par exemple ils n'ont pas en proposition leur méthode de paiement favorite. On sait qu'il y a aujourd'hui un gros appétit pour notamment tout ce qui va être solution de paiement fractionné, et on voit encore beaucoup de e-commerçants qui soit sont pas convaincus, soit l'ont testé et finalement ont préféré le retirer.
Donc pour toi, le paiement fractionné, c'est le paiement comme Klarna en plusieurs fois.
Ouais, c'est ça. Le paiement fractionné, ce qu'on appelle le payment in 3 installments ou 4 installments ou en 2 fois même, ce qu'on a rangé un peu facilement, je trouve, derrière l'acronyme BNPL, donc c'est Buy Now Pay Later. Mais il y a bien deux façons de travailler à séparer. C'est d'un côté effectivement le paiement en plusieurs fois, ce qu'historiquement des acteurs comme Sofinco, 7LM, etc. proposaient, donc ce qu'on appelle en fait le crédit, et des solutions effectivement qui se sont démocratisées depuis les dernières années, véritablement. Tu parlais de Klarna à l'instant, mais Klarna, je pense, en est un très bon exemple. Klarna, c'est une société qui a plus de 15 ans d'existence, et tu vois, t'as l'impression que c'est une solution qui est née il y a 3 ans. Tellement ils ont su aussi rafraîchir leur identité de marque, rafraîchir ce parcours d'achat, rafraîchir l'expérience user et autres. Mais effectivement, c'est d'un côté effectivement les paiements qui ne sont plus des crédits, mais en fait du paiement fractionné, donc c'est du paiement en 2, 3, 4 fois. D'autres solutions comme Alma par exemple vont proposer du paiement en 10 fois également. Ça, ce qui peut être véritablement intéressant lorsque le panier moyen est plus élevé. Mais le paiement 2-3 fois, pour moi, est un levier aujourd'hui qui permet d'aller chercher des paniers moyens inférieurs à 100 €, et qui sont véritablement des solutions à tester. Encore une fois, je reviens sur la notion de test, donc véritablement à tester. Et à côté de ça, t'as effectivement donc le paiement en plusieurs fois, et t'as ce qu'on appelle le pay later. Donc le pay later, c'est j'achète maintenant et je paye plus tard. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose en France qu'on connaît encore assez peu, enfin qu'on connaît. On l'a en tête, on sait que ça existe, mais qui est assez peu démocratisé. Si tu vas par contre sur un marché comme l'Allemagne, en Allemagne, c'est plutôt 30-35% des commandes qui passent par du pay later.
Ok, ouais, donc là c'est vraiment un peu comme Zalando, tu achètes et t'envoies une facture et t'as 15 à 30 jours pour la payer.
Exactement, exactement. Et parce que c'est aussi, et tu vois, je, ça fait le lien avec ce que je disais un peu plus tôt dans notre épisode, c'est on a aussi cette vocation chez Payplug, encore une fois, à vraiment apporter du conseil, à apporter de la valeur, à apporter des insights à nos marchands pour qu'ils s'approprient au mieux cet univers paiement. Et cet univers checkout, en tout cas, d'une manière générale. Et comprendre ça, c'est important. C'est-à-dire que tu vas en Allemagne, si tu n'as pas de pay later, tu te plantes. Tu vas en France, si tu as un panier moyen supérieur à 100 € sur un produit, j'allais dire, assez grand public, et que tu ne proposes pas de paiement fractionné, pour moi, c'est une erreur.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais par contre, s'il est à moins de 100 €, là, tu peux encore t'en sortir. Enfin, en fait, je peux poser la question du paiement fractionné. Enfin, c'est le plus efficace pour quel type de e-commerçant en termes de panier moyen?
Bah, là, on voit qu'il y a un vrai intérêt, c'est notamment lorsque tu vas les taper des paniers moyens qui sont supérieurs à 150-200 €. Là, on voit qu'il y a un intérêt. Mais encore une fois, c'est là où je te dis, c'est est-ce que c'est des produits grand public ou pas. Si tu es sur un produit niche, c'est-à-dire un produit qui s'adresse à une clientèle, tu vois, tu peux avoir par exemple, un vendeur de vélo, on est sur un produit grand public, tu as un panier moyen effectivement à... si, imaginons que tu peux avoir des vélos qui vont se vendre, pas des vélos, pas des VAE, mais des vélos qui vont se vendre en prix à des montants à 300, 400, 500 euros. Le paiement fractionné, pardon, a un vrai intérêt, a véritablement un vrai intérêt, parce que c'est des produits grand public. Mmh. Si par contre, t'es sur un produit de niche, je sais pas, je te prends par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir allez, je sais pas, je me pose la question, par exemple, tu vois, d'une marque qui va travailler sur de la bijouterie, mais sur de la bijouterie vraiment très haut de gamme, par exemple de la bijouterie haut de gamme. Est-ce qu'elle a autant d'intérêt? Est-ce que le paiement fractionné va avoir autant d'intérêt que sur ce marchand qui vend des vélos? Je me souviens d'avoir eu une discussion avec une, justement, je pensais à la bijouterie, avec une e-commerçante qui vendait des bijoux vintage sur internet, et elle me disait que elle, la solution de paiement fractionné, je crois que elle, pour le coup, ça devait être Alma, là où elle voyait le plus de paiement fractionné, c'était sur ses plus petits paniers. Alors, ses plus petits paniers, c'était des paniers à 600-700 €, mais en fait, c'était là-dessus véritablement qu'elle voyait du paiement fractionné. Et en fait, à partir du moment où elle passait ce cap des 700-800 €, elle voyait qu'en fait, en pourcentage, le nombre de transactions qui passaient par du paiement fractionné, ça diminuait.
Ça m'étonne pas, parce qu'en fait, ceux qui achètent vraiment cher, ils disent « Ok, je peux me permettre, on l'achète un seul coup et limite,
c'est ça. De payer en plus. » Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Et de la même manière, c'est aussi, ça diffère aussi en fonction de la population que tu as en face de toi. Typiquement, la Gen Z, le paiement fractionné à moins de 50 €, c'est un délire. C'est pour ça qu'aussi une solution comme Klarna, par exemple, fonctionne aussi bien, que des solutions comme Scalapay fonctionnent aussi bien. C'est des solutions qui sont disponibles en paiement fractionné, en paiement trois fois à partir de 35 €. Et tu vas, alors, un peu moins en France, mais tu vas dans des pays, typiquement aux États-Unis, c'est un énorme délire, quoi.
Attends, juste pour bien, quand tu dis délire, on est d'accord que c'est un truc qui les intéresse.
Complètement. Non, complètement. Ouais. Quand je dis c'est un délire, c'est vraiment, en fait, il y a un gros appétit, en fait, pour ces solutions-là. Tu regardes une solution comme Klarna, c'est une solution qui a, si je dis pas de bêtises, je crois, 100 millions de consumers uniques sur sa solution à travers le monde.
Ok, donc c'est énorme.
Donc les cas d'usage sont évidemment très variés, mais effectivement en fonction du marché aussi, on ne consomme pas du paiement fractionné de la même manière. Nous, le paiement fractionné, on a quand même ce truc de à partir de 100 €, je propose du paiement trois fois. T'as d'autres marchés sur lesquels du paiement fractionné, tu vois, typiquement PayPal, sa solution de paiement, je crois que c'est quatre fois, c'est à partir de 20 €, je crois, quelque chose comme ça. 20 ou 30 €.
Je savais pas que ça existait. Ça, donc tu peux le faire avec PayPal si tu veux faire un paiement sur n'importe quel site. Après, tu peux utiliser PayPal et te propose n'importe quel.
Exactement.
Ok, je savais même pas du tout. Ok.
Exactement.
Ok, intéressant.
Bon, et ça, pour le coup, c'est, voilà, encore une fois, ça, c'est plein de pistes à explorer. Tous les marchands sont pas, enfin, le paiement fractionné n'est pas fait pour tous les marchands, ni n'est pas fait non plus pour tous les consumers, mais ça peut effectivement permettre de débloquer une petite friction sur une partie de sa clientèle. Ça, c'est évident.
Ok. Tu parlais beaucoup de tester tout à l'heure. Bah, du coup, j'avais une question là-dessus. C'est quels sont les éléments que l'on peut tester sur sa page checkout, de ton expérience? Encore une fois, qu'on soit sur PayPal ou pas, j'aime bien aussi faire la distinction pour les gens qui nous écoutent, qui se disent ouais. « je peux rien faire si j'ai pas PayPal, ce serait un peu dommage.
» Non, alors pour le coup, tu peux difficilement AB tester quoi que ce soit sur la page de paiement. Tu peux en revanche AB tester sur est-ce que, par exemple, tu vois, je reprends l'exemple de Bancontact, j'ouvre le marché belge, Bancontact, ça a tel coup. Bon, en l'occurrence, Bancontact, c'est vraiment une solution qui coûte pas cher, donc c'est intéressant à mettre en place. Mais typiquement sur du paiement fractionné, l'AB test simple, c'est pendant un mois je suis de près mon taux de conversion sur les paniers d'un montant de moins de 200 €, par exemple, et le mois d'après je décide de mettre en place une solution de paiement fractionné, je suis de très près mon taux de conversion sur tous les mêmes paniers d'un montant de moins de 200 €. Je compare les résultats à la fin du mois et je vois ce qui est intéressant. Et là où je dis que c'est véritablement intéressant, par exemple, enfin, c'est plus intéressant de faire de la BTS sur une solution de paiement fractionné que sur une solution comme Bancontact, c'est qu'une solution de paiement fractionné nécessairement coûte beaucoup plus cher. On est sur un tarif qui va être à peu près du entre x3 et x4 par rapport à un paiement one shot par carte. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu peux plus facilement AB tester.
Ok, je réfléchis. Moi, en fait, j'avais en tête, tu vois, le fait, par exemple, de mettre moins de champs de formulaire, ou alors de faire un check-out au lieu d'avoir plusieurs étapes, on l'a en une seule étape, ou alors d'avoir un pop-up à la page d'une page redirigée, tu vois, c'est le genre de choses-là auxquelles je pensais, tu vois.
Ouais, complètement. Alors, la page de paiement, je reviendrai un petit peu après sur la page de paiement redirigée versus page de paiement intégrée. Sur le nombre de champs si on parle véritablement de la page de paiement, le nombre de champs de cartes, c'est quelque chose qui est absolument pas, personnalisable aujourd'hui. En revanche, effectivement, mettre moins d'informations, par exemple, au préalable de la saisie des informations de paiement, notamment sur la partie information de contact, information de livraison ou autre. Est-ce que je suis sur un one page? Je fais une petite... petite référence à ce que Shopify a sorti récemment avec le One Page Checkout. C'est effectivement quelque chose qui est assez intéressant à pouvoir explorer. Donc vraiment sur le checkout du manière générale, effectivement, de réduire le nombre d'étapes, c'est quelque chose à faire. J'en parlais avec Charles de DNG il y a encore quelques semaines. On parlait notamment de la différence entre... En tout cas, d'expériences que tu peux avoir sur certains CMS qui vont te demander, et là c'est véritablement le e-commerçant qui fait ce choix-là, qui oblige en fait le consumer, le prospect, à créer un compte pour pouvoir passer une commande.
Voilà.
Ça pour moi, c'est une friction dramatique.
Ouais, il faut même pas la BTC, ça, il faut réussir à ne plus le proposer. Et je pense que c'est quasiment possible pour surtout les checkouts.
Alors, effectivement, là, il y a aussi un sujet pour les e-commerçants de tracking de data derrière. Comment est-ce que j'arrive à récolter des informations? Donc, c'est, effectivement, il y a cette différence-là. Je suis assez convaincu du fait que, mais là, je parle pour moi, mais je suis assez convaincu du fait que la commande en tant qu'invité, versus, en particulier sur ces CMS-là qui proposent soit de la commande en tant qu'invité, ou de la commande en créant son compte, il est nécessaire en tout cas de quelque chose à optimiser facilement, c'est de ne plus obliger les consumers effectivement à créer leur compte. C'est une friction phénoménale.
Ok, je comprends. Je comprends. Attends, je reprends sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je voulais aussi savoir c'est quoi les différences entre la page de paiement redirigée ou celle qui est intégrée, ouais. Et est-ce que vous observez des différences en termes de taux de conversion encore une fois? Donc, qu'est-ce qui est mieux? Genre, qu'est-ce qu'on devrait faire un choix? Vers quoi il faut se diriger?
Ouais, je te mentirais en te disant qu'il faut aller vers de la page de paiement redirigée. Clairement, l'objectif, c'est de réduire toujours le plus les étapes. Maintenant, si je fais le lien avec ce que je disais très rapidement en tout début d'échange, il y a 2-3 ans, tout le monde ne jurait que par l'UX. Tout le monde ne voulait que ça, ne voyait que ça. C'était je veux que ce soit beau, je veux que ce soit bien arrangé, etc. Alors évidemment, l'UX est toujours au centre des préoccupations, au centre des discussions lorsqu'il s'agit d'optimiser la partie de checkout, évidemment. En revanche, la partie performance, et je fais encore le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, a tellement pris de poids aujourd'hui parce que le e-commerce est tellement devenu un business de centimes avec les mois passants que on n'est plus seulement sur une réflexion UX, mais on est aussi sur une réflexion performance. De la même manière que pendant un moment, on était exclusivement, et il y a encore beaucoup trop de marchands qui, à mon sens, font cette erreur-là, de choisir un prestataire de paiement uniquement sur la partie tarifaire ou sur la partie UX pour d'autres. Pour moi, c'est un mélange, un équilibre très délicat à prendre en compte et différentes métriques à bien intégrer dans sa réflexion. C'est quoi la performance que je peux attendre avec ce prestataire? C'est quoi la performance d'un point de vue UX? Qu'est-ce qui va me satisfaire en tant que e-commerçant d'un point de vue expérience? C'est l'expérience en tout cas que j'ai envie de délivrer. Est-ce que j'arrive à m'y retrouver aussi d'un point de vue tarifaire? Et en fait, c'est ça. C'est vraiment essayer de composer avec toutes ces choses-là de sorte à pouvoir trouver l'équilibre le plus adéquat et évidemment qu'il sera toujours un équilibre assez fragile, mais le plus adéquat. Et tu vois, quand je te disais, effectivement, il y a encore 2-3 ans, on parlait que du X. Aujourd'hui, on parle beaucoup de performance. Et au final, on a de plus en plus, nous... d'une manière assez générale, étant donné qu'on est en permanente croissance, on a de plus en plus de marchands, y compris sur Shopify, parce que c'est un peu le gros sujet pour nous, puisqu'on est encore aujourd'hui en page de paiement redirigée. On travaille à faire en sorte de ne plus l'être obligatoirement et à pouvoir laisser le choix à nos e-commerçants. On travaille d'arrache-pied sur ce sujet-là. Mais avec le temps, on a de plus en plus de marchands Shopify qui passent avec nous. On est aujourd'hui à un peu plus de 2000 e-commerçants Shopify France qui utilisent Payplug. Donc, on est assez fiers de ce résultat aujourd'hui. Sachant qu'on est en page de paiement redirigée, encore une fois.
C'est vous êtes une page de paiement redirigée. Et en fait, parce que moi, je retiens de ton discours, après je te laisse reprendre, c'est que c'est pas parce qu'une page de paiement est redirigée et n'a pas exactement la même UX que tu as sur ton site que ça va moins bien performer, tout au contraire.
Exactement, exactement. Et au début, alors évidemment, c'est la question qui arrive dans la quasi-totalité des discussions avec des marchands qui sont en page de paiement intégrée et qui sont tentés de passer avec nous ou qui s'interrogent sur le fait de passer avec nous pour aller chercher de la performance. Chercher de la performance, oui, mais en même temps, si je suis en redirigé, est-ce que je vais pas perdre en conversion? Et en fait, avec le temps, on a eu de plus en plus de retours marchands et on s'est rendu compte que non. D'une manière générale, on voyait pas de différence nette entre les deux, et on a même des marchands quand ils nous font ce retour là, on est très content parce que ça nous donne raison in fine, mais je prends un exemple avec le petit lunetier qui pendant très longtemps a hésité à passer d'une solution de paiement intégrée, enfin d'une page de paiement intégrée sur Shopify à nous, et aujourd'hui il se trouve qu'il a noté une hausse de la conversion en passant avec nous. Alors évidemment, il n'y a pas que Payplug qui rentre en jeu dans cette hausse de la conversion. On imagine qu'il a mis en place plein de choses, mais au final, pour lui, c'est un pari gagnant. Avoir une tarification qui soit plus intéressante parce qu'on a travaillé là-dessus avec lui pour aller là-dessus, à travailler aussi sur des projets qui vont être menés à moyen long terme, notamment sur la partie omnicanal, travailler avec une solution française, et en plus de ça, pouvoir travailler sur la performance en augmentant nettement son taux d'acceptation. Donc oui, pour le coup, c'est ça aussi.
Non, j'allais dire, tu fais venir une question en tête, c'est quoi les bénéfices pour un marchand français de travailler avec une solution française plutôt que d'utiliser Shopify Payments ou Stripe ou encore un autre? Ça, c'est une question qui m'a souvent été posée et je n'ai pas forcément toujours la réponse.
Alors, il y a question hyper ouverte. Je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que l'idée, voilà, c'est pas trop de prêcher pour ma paroisse, mais aussi d'apporter un éclairage sur le paiement d'une manière générale. À mon sens, les solutions que tu viens de citer là, il n'y a pas de mauvais choix. Okay. Je dirais jamais un e-commerçant qui décide de partir / rester avec un de nos concurrents comme Stripe ou d'autres solutions comme Adyen, par exemple, ne fera jamais de mauvais choix. Je veux dire, ce sont des solutions qui sont ultra performantes, qui sont leaders sur le marché sur lequel on se trouve aujourd'hui, qui ont beaucoup d'avance par rapport à des solutions comme nous, par exemple, sur d'autres stacks techniques, qui ont du retard sur d'autres sujets aussi, hein, sur la partie accompagnement, sur la partie lisibilité des informations et autres. On est aujourd'hui en mesure de pouvoir dire qu'on a une solution qui permet de pouvoir mesurer en fait la performance des paiements pour un e-commerçant, et ça c'est quelque chose d'assez important. Je compte pas le nombre de e-commerçants qui m'ont dit je connais pas mon taux d'acceptation. Pour nous, ça c'est pareil, c'est une hérésie. C'est comme si demain tu disais je connais pas mon taux de conversion site, quoi, tu vois.
Comment le calculer, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris comment le calculer.
Ouais, le taux d'acceptation, c'est le nombre de paiements qui ont réussi sur le nombre de paiements qui ont été tentés.
C'est vrai, vraiment, c'est-à-dire le moment où tu mets ta carte de crédit. Je pense que c'est ça.
Exactement.
Le moment entre dans le checkout, c'est le moment où tu mets tes informations de carte de crédit.
Exactement.
En Belgique, je ne sais pas si tu le sais, mais tu dois utiliser un lecteur de carte, donc ça peut prendre un peu de temps. Et en France, c'est un peu plus direct.
Ouais, exactement. Mais voilà, tout ça, si tu veux, c'est effectivement des choses à prendre en compte. Donc, qu'est-ce qui va différencier entre nous et nos concurrents? Enfin, je reviens sur la partie notamment des solutions comme Stripe Adyen. Moi, je suis ravi d'avoir des solutions comme Stripe Adyen en face de moi, parce que c'est des solutions qui sont tellement challengeantes que ça nous pousse à nous dépasser au quotidien. C'est un peu con à dire, mais on a vu en fait pendant des années de la jeunesse du e-commerce jusqu'à il y a encore 5, 6, 7 ans, des solutions bancaires traditionnelles qui n'avaient pas véritablement de nécessité à se remettre en question sur la manière dont elles accompagnaient en tout cas le e-commerçant dans l'optimisation de l'expérience client. Et donc, il n'y avait jamais vraiment eu de travail. Et donc, si tu veux, t'as pas de nécessité. Enfin, en tout cas, tu vois que tu vends, que ça fonctionne. Très bien. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui sont arrivés. Part de marché à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on propose de l'innovation. On propose des nouvelles features. On propose une nouvelle brand. On propose des choses un peu différentes en termes de, en tout cas, dans la manière dont on va matérialiser ce checkout. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi pour les e-commerçants. Et nous, on se différencie comment aujourd'hui? C'est à la fois dans la manière dont on va accompagner nos e-commerçants. Donc, comme je le disais sur la partie notamment analytics.
Oui.
Ouais, voilà. Donc, à la partie analytics, comment est-ce qu'on les accompagne, tu vois, à comprendre leur taux d'acceptation, leur taux de conversion, la répartition des transactions par device, par méthode de paiement, par moyen de paiement, par carte, par pays, des choses comme ça. Comprendre aussi d'un mois à l'autre les paniers moyens qu'on va relever, les paniers moyens par device aussi, tu vois. C'est des choses comme ça sur lesquelles on peut vraiment accompagner. On fait un excellent travail, je trouve, et je le dis avec beaucoup de mesure, mais on fait un excellent travail sur la partie accompagnement de nos clients au quotidien. On a une équipe account management qui est vraiment très performante sur ce sujet-là, entre autres. Et après, effectivement, sur la partie accompagnement, plus consulting. Il y a énormément de e-commerçants qui savent aussi l'intérêt qu'ils ont à travailler avec Peplug, c'est aussi de pouvoir compter sur nous lorsqu'il s'agit de se questionner sur tel ou tel partenaire, de pouvoir leur apporter nos éclairages sur un sujet en particulier. Tu vois, une solution, un e-commerçant qui va m'appeler, qui va me dire j'ai besoin de retravailler la partie marketing automation. Je travaille avec Klaviyo, mais est-ce que tu connais une agence qui pourrait m'accompagner, des choses comme ça. On a tellement, si tu veux, nourri avec les années notre réseau partenaire. Aujourd'hui, on a un peu plus de 800 partenaires répartis sur le marché français, sur le marché d'une manière générale, dans le monde, 800 partenaires, mais qui vont nous accompagner sur le marché français. Et donc, c'est aussi de pouvoir leur faire bénéficier de ce réseau-là, de pouvoir les accompagner dans le choix d'une agence lorsqu'ils veulent faire une refonte ou une migration vers un CMS ou un autre, de les accompagner dans le choix d'un prestataire lorsqu'il s'agit de retravailler la partie AS, des choses comme ça.
Ok, j'ai compris, ça marche. Écoute, j'ai encore deux, trois questions à te poser qui sont maintenant peut-être un peu plus techniques. On a un peu abordé au début du podcast, c'est sur les indicateurs qui te permettent de mesurer la performance de ton checkout. Donc en gros, moi j'ai compris qu'il y en avait deux, le taux d'acceptation et le taux de conversion. Donc le taux d'acceptation, c'est le nombre de paiements réussis divisé par le nombre de paiements tentés. Moi j'ai compris que plus il est élevé, au mieux, et que quand tu dépasses les 90%, on peut commencer à dire que tu as un bon taux d'acceptation. Et puis après, tu as le taux de conversion du checkout, c'est-à-dire le nombre de paiements réussis divisé par le nombre de personnes qui sont entrées sur la page checkout. C'est un peu ça, si je vais bien résumer.
Ouais, c'est ça.
Ok. Et est-ce que toi, tu as des benchmarks à donner sur ce deuxième taux de conversion qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé, sur peut-être, est-ce que c'est 50%, 30%, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme taux de conversion checkout, et comment l'optimiser, comme toujours, comme tu sais, les gens qui nous écoutent, bah, ils sont toujours friands d'avoir des tips et des conseils pour améliorer leur perf.
Bah, en fait, là où on revient un petit peu à ce que je te citais tout à l'heure, c'est vraiment les éléments de réassurance. En fait, le taux d'acceptation, c'est comment est-ce que ton prestataire travaille derrière pour faire en sorte qu'un maximum de paiements tentés soient validés. Ouais. Le taux de conversion, c'est comment est-ce que ton prestataire t'aide à faire en sorte qu'il y ait un paiement qui soit amorcé. Donc en fait, c'est deux étapes bien différentes. C'est taux de conversion, c'est je travaille dessus en tant que prestataire pour faire en sorte que le consommateur, que la consommatrice fasse l'effort de rentrer ses numéros de carte.
Oui.
Et sur le taux d'acceptation, c'est comment est-ce que je fais en sorte que, une fois que le bouton valider le paiement a été actionné, oui. Moi je fais en sorte, avec mes circuits en interne en tant que prestataire de paiement, je fais en sorte que un maximum de ces paiements amorcés soient validés.
Voilà. Et ça, est-ce que ça, c'est lié au 3D Secure dont tu as un peu parlé?
La deuxième partie, le taux d'acceptation, effectivement, c'est lié au 3D Secure.
C'est le 3D Secure, c'est qu'en gros, plus, moins tu as de friction par rapport. En fait, je pense que ce serait bien que tu expliques le 3D Secure et les problématiques que ça a engendré pour expliquer en quoi le fait d'avoir une solution tierce qui t'aide justement à passer outre ce 3D Secure pour certaines transactions te permet d'améliorer ton taux d'acceptation. Parce que ça, je sais que l'année passée, ça a été tout un petit sujet de dire, ouais, voilà, depuis le 3D Secure est arrivé, j'ai un écroulement sur les paiements qui sont normalement acceptés parce que les gens, ils ont leurs paiements qui sont bloqués à cause de ça, tu vois.
Ouais. Alors effectivement, je reviens effectivement, donc encore une fois, pour bien résumer, le taux de conversion, c'est le nombre de paiements qui ont été validés sur le nombre de paiements amorcés. Le taux d'acceptation, c'est le nombre de consommateurs qui ont réussi à payer sur le nombre de consommateurs qui ont essayé de payer. C'est vraiment ça. Ces deux métriques-là. Sur la partie 3D Secure, en vérité, on entend beaucoup parler du 3D Secure, mais le 3D Secure, ça fait un petit moment qu'il existe. Le 3D Secure, il vient, en fait, il est né d'une loi qui est passée à la fin des années 2000. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 2008 ou 2009 ou 2007, et elle a été mise en place en 2009. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais le 3D Secure, historiquement, c'est vraiment, j'ai la possibilité de pouvoir pouvoir, moi, valider en fait ma transaction. Et donc, il y a deux notions à avoir, c'est que le 3D Secure, il y en a deux, il y a le 3D Secure niveau 1, enfin le 3D Secure version 1, pardon, et le 3D Secure version 2. Le 3D Secure version 1, c'est celui qui est né effectivement à la fin des années 2000, qui répondrait à la question « Please validate your payment ». Le 3DS deuxième version, c'est celui qui répondrait plutôt à la question « Please authenticate your identity ». Et en fait, c'est ça véritablement comment ça se décompose. Le premier, c'était... le e-commerce arrive, on voit qu'il y a un vrai sujet sur le e-commerce. Nous, on a besoin en tant que banque de se protéger vis-à-vis de la fraude en ligne, puisque évidemment, plus t'as de transactions en ligne, plus t'as de fraude en ligne, ça va de pair. Et plus les fraudeurs, avec le temps, sont de plus en plus performants, à notre grand regret, évidemment. Plus effectivement, donc, tu vas devoir, en tant que prestataire de paiement, te protéger aussi contre ça. Donc, le 3D Secure, ça fait un peu chier tout le monde, mais en fait, c'est une manière pour tout le monde aussi de se protéger. Mmh. Donc, c'est la limitation de vitesse sur la route. La limitation de vitesse, elle fait un peu chier tout le monde quand on est tous un peu en retard et qu'on a besoin d'aller un peu plus vite. Mais en fait, c'est aussi ça qui nous permet de pouvoir limiter le nombre d'accidents. Et donc, c'est un petit peu ça. Donc, le 3DS niveau 1, c'est ce qu'on appelle le OTP. Donc, c'est le One Time Password qui était envoyé par SMS. Donc, je suis sur un site, je suis en train d'effectuer une transaction. Ma banque a envie de valider que c'est bien moi qui suis en train de procéder à un paiement et m'envoie un SMS avec un code à 6 ou 8 chiffres, et donc ça me permet de valider ma transaction. Et là, c'était vraiment de valider ma transaction, mon paiement. Donc ça, c'est le 3D Secure niveau 1. Mais là, un truc tout bête, c'est, je pense qu'avec le temps, ils s'en sont rendus compte, et ça aurait dû être contré beaucoup plus rapidement, à mon sens, que ce qui était fait, mais on avait aussi besoin que la technologie suive derrière, c'est que tu te fais voler ton sac, avec ta carte bancaire et avec ta carte de crédit et ton téléphone, oui. N'importe qui avec un 3DS niveau 1 en fait peut continuer à utiliser ta carte sans trop de difficultés. Pourquoi ? Parce que si t'as pas de mot de passe sur ton téléphone, tu peux recevoir des SMS que t'ouvres et en fait tu vas valider des paiements. Donc ça, c'est ils se sont rendus compte, en tout cas les organismes se sont rendus compte de la difficulté de ce 3DS niveau 1 à s'adapter aux nouvelles pratiques et puis évidemment à la hausse de la fraude. Elles ont été poussées, elles se sont poussées à sortir, à imaginer un 3DS deuxième version. Donc le 3DS deuxième version, c'est effectivement celui qui est arrivé, qui a été mis en place à la fin de... Je crois que c'est 2021, septembre 2021, ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Septembre 2021. Donc c'est assez récent. Il y a pas mal de solutions de paiement, notamment comme Payplug, qui étaient déjà passées sur du 3DS en deuxième version. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment comment j'authentifie. Je ne valide plus un paiement, mais j'authentifie mon identité. Et on est vraiment sur une identification à deux facteurs, biométrique. Donc on ne reçoit plus de SMS. En tout cas, si on a un téléphone suffisamment récent, c'est plus via un SMS, c'est via une validation de l'identité, donc soit un Face ID, soit un Touch ID. Et en plus de ça, moi c'est le cas en tout cas avec mon application, au Crédit Mutuel, c'est un code à 6 chiffres, qui est un code en fait unique, qui me permet de débloquer mon application bancaire. Donc c'est aussi l'importance d'authentifier l'identité, de valider l'identité du payeur. C'est plus faire en sorte qu'on valide un paiement, c'est valider le fait que c'est bien le détenteur de la carte ou la détentrice de la carte qui est en train d'effectuer un paiement.
C'est ça. Mais on est d'accord que le 3D Secure, c'est ça que je voulais en venir, enfin c'est hyper clair ton explication, c'est que c'est avec certaines solutions de paiement, il ne va pas se déclencher tout le temps.
Voilà, c'est ça. Il ne va pas se déclencher tout le temps. Alors, il ne va pas se déclencher tout le temps, oui et non. En fait, le 3D Secure se déclenche tout le temps. Il y aura toujours du 3D Secure. Simplement, c'est est-ce qu'on demande à la personne de s'authentifier ou est-ce qu'on est suffisamment sûr de la sécurité de la transaction ? On juge qu'il n'y a pas de risque sur cette transaction pour ne pas avoir à demander à la personne de s'authentifier et donc de valider cette phase 3D Secure quoi qu'il arrive. Okay. Il n'y a pas de transaction qui passe sans 3D Secure sur des paiements par carte aujourd'hui. Ça n'existe plus. Okay. Du moins sur le marché français et sur le marché européen d'une manière générale, puisque le 3D Secure est une norme européenne. enfin la DSP2 et le 3D Secure est une norme européenne. Donc voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. J'essaie de reprendre le fil de ta question. Non, effectivement, donc on verra pas effectivement d'authentification, de phase d'authentification 3D Secure dans certaines transactions, parce que on a la possibilité, nous, en tant que prestataire, notamment chez Payplug, on n'est pas le seul à le faire, encore une fois, ce serait être malhonnête, mais on a la possibilité de pouvoir travailler avec les banques. La DSP2, l'une des grandes différences par rapport à la DSP1, donc quand je dis DSP, c'est la directive sur les services de paiement. La DSP2, l'une des grandes différences avec la DSP1, c'est que pendant la DSP1, c'était la banque acquéreur qui validait ou non le paiement. La banque acquéreur, c'est la banque au final du e-commerçant. Et la DSP2, en plus de sortir le 3DS niveau 2, c'est un transfert de décision. Et ce n'est plus la banque acquéreur qui décide, c'est la banque émettrice. La banque émettrice, c'est la banque qui édite la carte avec laquelle la transaction est en train d'être effectuée. Parce que c'est cette banque-là, en réalité, qui veut se protéger d'une éventuelle opposition sur un paiement frauduleux. Donc nous, on n'a plus vocation, on n'a plus la possibilité de définir si oui ou non, comme avant on le faisait lorsque la DSP2 n'était pas encore entrée en vigueur, on n'a plus la possibilité de décréter si oui ou non on veut qu'il y ait du 3D Secure. En revanche, on a toujours la possibilité de pouvoir donner notre avis en tant que prestataire de paiement sur ce qui nous semble être une transaction sécurisée ou non.
Okay.
Je vais essayer de t'imager ça le plus facilement possible, le plus simplement possible, que ce soit le plus compréhensible possible pour toi et pour celles et ceux qui nous écoutent. Je suis consommateur, je vais sur un site, j'effectue un paiement par carte d'un montant de 60, 70 euros. Et au moment où je clique sur valider le paiement, il y a une petite salle à côté dans laquelle vont se mettre le prestataire de paiement, la banque émettrice, et ces deux banques, elles vont discuter entre elles. Donc en fait, le prestataire de paiement et la banque vont discuter. Les deux entités vont discuter. Nous, en tant que Payplug, on va dire, bon, bah voilà, nous, on a décrété qu'effectivement, on a vu en tout cas que sur ce paiement-là, ça nous paraissait plutôt sécurisé. Il n'y a pas eu de copier-coller sur les numéros de carte. On voit que les numéros de carte ont été saisis à une vitesse relativement normale. On voit que l'adresse IP n'est pas une adresse IP publique, que la personne n'est pas connectée dans une gare, par exemple, à un réseau dans une gare ou un réseau dans un espace public d'une manière générale. On a remarqué également que cette personne, elle n'est pas l'adresse IP n'est pas identifiée à l'autre bout du monde dans un pays qui est plus à risque qu'un autre. Dans ces cas-là, on va établir un score de risque, on va définir que ce score de risque il est suffisamment bas et on va faire une préconisation auprès de la banque émettrice en disant bah écoute, là pour le coup, cette transaction elle nous paraît sécurisée, nous on aimerait bien que tu déclenches pas le 3D Secure parce que ça nous semble pas nécessaire.
C'est ça.
Mais systématiquement, aujourd'hui avec la DSP2, le 3DS deuxième version, c'est la banque émettrice qui a le dernier mot. Nous, on ne peut pas, hormis préconiser, faire des recommandations auprès de cette banque, on ne peut pas décider si oui ou non le 3D Secure sera déclenché.
Ouais, j'ai compris. Okay.
Et donc, d'une manière générale, c'est aussi comment nous, on arrive à se créer un profil de confiance vis-à-vis des banques émettrices, parce qu'on a peu de chargeback, parce qu'on est très réglo, notamment sur les activités qu'on va accepter au sein de Payplug. Donc c'est comme ça aussi qu'on se crée un capital sympathie auprès des banques émettrices. Et c'est aussi de cette manière-là que nous, en tant que prestataire, on arrive à avoir de plus en plus la confiance des banques émettrices et que ces banques, de plus en plus, nous fassent confiance lorsque on leur fait des recommandations, lorsqu'on préconise en tout cas qu'une transaction pourrait être passée sans 3D Secure. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un des meilleurs taux d'acceptation du marché parce que justement, on arrive à avoir plus de transactions qui vont passer sans 3D Secure.
Super clair, super clair. C'est ça que je voulais un peu savoir, c'est comment tu peux impacter ton taux d'acceptation via une autre solution de paiement. Et moi, mon idée, c'est pas forcément de faire la promotion de Payplug, c'est juste d'expliquer que bah, tu peux avoir des situations ou des solutions de paiement ou des solutions de paiement qui sont plus locales qui te permettent en fait d'améliorer tout ça sur ton site.
Parce que c'est un. Ouais, non, mais complètement. Complètement. Et encore une fois, l'idée, c'est pas. Je te rejoins là-dessus. L'idée, c'est pas de faire de la promotion de Payplug, mais c'est de montrer qu'en fait, il existe des solutions aujourd'hui pour aller chercher quelques points d'acceptation. Et même si effectivement, ça peut paraître anodin, mais 2, 3, 4 points de taux d'acceptation en plus, ça peut faire la différence, quoi.
Ben, ça peut faire la différence si tu fais des chiffres d'affaires importants, on va dire plus d'un million, ça commence vraiment à être intéressant, même moins d'un million, tu me diras, mais tout argent est bon à prendre dans ce cas présent. Mais on est dans des volumes qui te permettent de plus facilement amortir ce que tu payes en plus pour cette solution-là.
Complètement. Et puis même, si vraiment on essaye de réfléchir aussi à plus largement et pas uniquement en termes de chiffre d'affaires en plus, mais c'est aussi quand tu vois les échecs de paiement aujourd'hui, nous, de ce qu'on a comme historique, quand tu regardes les échecs de paiement d'une manière générale pour un marchand et que tu vas analyser les raisons de ces échecs de paiement, tu remarques que d'une manière générale, on est entre 50 et 60% de ces échecs qui sont dus à un problème d'authentification 3D Secure. Donc en fait, c'est aussi pour le marchand, hormis la partie effectivement plus d'acceptation, donc plus de CA, plus de points d'accept, donc plus de points de CA à la fin, c'est aussi une manière de limiter les interactions avec ses clients. En enlevant de la friction, c'est aussi moins de clients, moins de clientes qui vont aller saisir le support de la marque parce qu'on a un souci sur une transaction. Donc c'est aussi du temps en moins que tu vas allouer à des tâches qui sont chronophages pour ton business. Tout ça, c'est aussi à prendre en compte dans sa réflexion, effectivement.
Ok, cool, c'était super, Paul-Louis. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Peut-être une dernière question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il y a des nouveautés, des innovations qui vont arriver au niveau du checkout, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou d'autres choses? Non, on n'a pas la réponse, il n'y a pas de souci, mais je me pose cette question-là tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés à ce niveau-là?
Non, il n'y a pas grand chose qui. Enfin, il n'y a pas grand chose. Si, en vrai, il y a plein de trucs qui arrivent. Du checkout d'une manière générale, sur la partie Payplug, nous, on travaille d'arrache-pied, comme je le disais très brièvement tout à l'heure, à améliorer notre expérience sur les champs de cartes, évidemment, sur toute la. En tout cas, à partir du moment où le client arrive sur notre espace, on travaille beaucoup sur l'analyse, est-ce que page de paiement redirigée, page de paiement intégrée, des choses comme ça. Sur la quasi-totalité aujourd'hui des CMS, on va travailler sur de la page de paiement intégrée ou redirigée. Donc, on donne la possibilité à des marchands de choisir. Et puis après, il y a aussi d'autres méthodes de paiement. Je pense que là-dessus, sur l'optimisation du checkout, c'est aussi un de nos gros chantiers, c'est de proposer des méthodes de paiement les plus variées possibles, mais les plus cohérentes aussi. C'est pour ça qu'on a avancé sur Apple Pay en début d'année, qu'aujourd'hui, on est capable de proposer du Apple Pay à nos e-commerçants. C'est pour ça qu'on propose maintenant du BankContact. C'est pour ça qu'on propose Sofort, des solutions comme Ideal, comme Satispay pour les Italiens, des choses comme ça. Donc c'est comme ça aussi qu'on va venir enrichir notre stack technique. Et puis après, les innovations, elles se font aussi plus largement sur tous nos métiers. Comme je te le disais très rapidement en début de présentation, notre métier, c'est aussi d'être une solution de paiement omnicanal. C'est pour ça que cette semaine, par exemple, on a sorti Tap2Pay, qui est une solution de paiement nouvelle génération qui permet en fait un e-commerçant de faire de son iPhone un terminal de paiement et de pouvoir encaisser avec Payplug sur son iPhone.
Très bien.
Ça fait partie des grandes innovations.
Ok, c'était hyper clair. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi, si on veut discuter, avoir des conseils?
Avec plaisir. Je suis très actif sur LinkedIn, donc vous pouvez... En tout cas, toutes les personnes qui nous écoutent pourront me retrouver sur LinkedIn. J'ai tendance à vraiment répondre à tout le monde, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je me ferai une joie de pouvoir y répondre.
Ok, on mettra ton profil LinkedIn dans les notes de l'épisode. Donc Paul-Louis Bénard, merci encore pour ton temps et on se dit à très vite.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.